8. Une inquisition. Umbrarum hic locus est, somni noctisque sopore. Virgile. Les oreilles rabattues, Mirabilis se tapit précipitamment dans la rigole calcaire de sa guivre. Stupéfiant, invraisemblable, on l'avait aperçu sur son perchoir. Si encore il avait été repéré par l'un des oiseaux de proie, l'honneur eût été sauf. Mais les tiercelets se trouvaient encapuchonnés. Non, l'importun n'était autre que le petit blondin aperçu au trèfle. Un bai jaune, complètement dépourvu de clairvoyance. Comment avait-il pu le débusquer sur son perchoir, alors que l'épieur se livrait à un guet clandestin? Mirabilis avait pourtant raffiné sa discrétion au rang d'art. C'était tout bonnement incompréhensible. Pis encore, c'était très vexant. De contrariété, il battit violemment de la queue. Cette histoire, décidément, devenait fort déplaisante. Quelle déplorable idée, en vérité, que d'aller suivre les lubies de ces sujets qui ne tenaient pas en place. La route était interminable depuis le château du Trèfle jusqu'à la forteresse de Verre, et un chat, si sémillant fut-il, aurait été bien en peine de suivre l'allure de cavalier. Il lui avait donc fallu déployer des efforts qu'il estimait épuisants pour abattre pareille distance. La solution la plus simple eût été de régresser d'un ou deux mois pour avoir le loisir d'arriver malgré tout le premier. Mais pour cela, encore eût-il fallu marcher par les frimas, une option tout à fait inconfortable. En conséquence, Mirabilis s'était cru astucieux en recourant à l'expédient inverse. Puisque de toute façon il ne pouvait arriver en avance, autant profiter des agréments d'un énorme retard. Jusqu'au milieu du printemps, il avait mené une vie de patachon au château du Trèfle, choyé par les deux petites filles du seigneur, insoucieux du gros chagrin qu'il laisserait derrière lui quand il leur aurait faussé compagnie. S'étant mis en route au beau jour, il avait baguenaudé sur l'essentiel du chemin, conquis les faveurs de quelques minettes au passage, chassé le papillon, le lézard et le campagnol, oublié un moment le but de ses vagabondages. Sans doute eût-il poursuivi indéfiniment cette flânerie charmante s'il n'avait été rattrapé par les événements. À trop tarder, il était tombé dans un pays en guerre. La situation en Bromel était devenue tout à fait alarmante. Cela l'avait aidé à reprendre ses esprits et la route du château de Verre qu'il avait finalement atteint après le solstice. La forteresse était alors en effervescence. Un drame épouvantable venait de s'y produire. Comme les choses prenaient vraiment mauvaise tournure, Mirabilis avait remis de l'ordre dans ses propres affaires. Une toilette énergique l'avait ramené au début du printemps, quand tout n'allait pas si mal. En définitive, il était quand même arrivé le premier. Complaisant envers la légèreté avec laquelle il avait folâtré en cours de route, il jugeait qu'il s'était donné énormément de mal pour accomplir la tâche dont on l'avait investi. Que de tribulations! Le jeu n'en valait vraiment pas la chandelle. Et voici qu'un de ses benets de chevalier avait l'outrecuidance de le découvrir. Bien loin d'être amusante, cette filature accumulait les désagréments les plus cuisants. Sa queue en battit de plus belle. Il prit conscience après coup que cette manie avait probablement révélé sa cachette. Fort heureusement, les derniers écuyers et leurs chevaux de somme disparaissaient dans l'entrée. Bientôt, le tympan de Mirabilis fut assourdi par un cliquetis de chaîne et le grincement de la herse qu'on refermait. Puisqu'on l'avait si désobligeamment démasqué, le fureteur remit à plus tard la suite de sa surveillance. De toute façon, le second pont était étriqué et la troupe embouteillée faisait un vacarme retentissant sous les voûtes du châtelet. Relevant prudemment le nez, Mirabilis s'autorisa un coup d'œil furtif derrière l'oreille de sa gargouille. Seul le crottin abandonné sur le tablier du pont témoignait du retour de la suite princière. Plus loin, au bord de la rivière, le prêtre du desséché avait repris ses prières. Quoique ce sujet d'observation n'eût rien de très attrayant, Mirabilis lui accorda son attention. sans parvenir à mettre la griffe sur la raison précise de sa curiosité, le rôdeur éprouvait de l'intérêt pour ce croque-mort. Quelque chose dans le discours ou dans la voix, peut-être. Rien de sorcier, mais une bizarrerie qui chiffonnait les pierres. Il faut dire que, bien qu'il se défiât du clergé de la vieille déesse, un peu trop pénétrante à son goût, Mirabilis avait une longue pratique des milieux religieux. Chez les contemplatifs et les lettrés, on trouvait toujours des amoureux de la gente féline à qui quémander un bol de lait ou une gamelle de reste. Malheureusement, on pouvait aussi tomber sur des sectaires qui chassaient les chats noirs avec force coups de pied et imprécations. Au fil de ces musardises, notre maraudeur s'était donc livré à une étude approfondie de l'espèce ecclésiastique. Il se flattait de savoir trier le bon grain de livret en un clin d'œil. Or, il ne parvenait pas à cerner ce pèlerin-là. Et c'est de profundis. Cela finit par l'intriguer. Mirabilis avait cru entendre l'un des cavaliers le présenter comme un tourier. Il en avait croisé plus d'un au cours de ses vagabondages. Après tout, le portier est d'ordinaire le premier religieux que rencontre le voyageur qui fait étape dans un sanctuaire. En raison de leur relation avec le siècle, ces frères et moniales montraient une certaine assurance. Il n'était pas anormal que celui-ci eût osé tenir tête de façon si audacieuse à une troupe de chevaliers. Mais c'était dans le propos en soi que les pieurs avaient décelé un accent inattendu, une tournure déconcertante. Le prêtre avait de la répartie et de la conviction, c'était entendu, rien que de très banal. Mais comme sa voix était bien posée, comme son élocution était claire, et n'avait-il point eu recours à quelques figures oratoires? Voilà ce qui chiffonnait l'oreille. Ce frère Califort était frotté de rhétorique. Il apostrophait comme un prêcheur. Or, d'ordinaire, dans les chapitres religieux, on confiait la charge de tourier à des âmes plus rustiques. On réservait les lettrés et les prédicateurs à d'autres offices. La vigie en était là de ses raisonnements, lorsqu'un second prêtre sortit du bois funéraire. Quoiqu'il portât lui aussi l'habit noir du culte des défunts, il parut d'emblée différent du tourier, et tout aussi singulier. De taille médiocre, il était extraordinairement trapu. Et ce n'était pas la panse d'un moine gourmand qui bombait sa robe, mais plutôt le gabarit d'un carrier ou d'un bûcheron. Il avançait d'un pas chaloupé en faisant rouler ses puissantes épaules sous la coule, et pourtant sa démarche était lente, traduisant la lassitude, sinon l'épuisement. Il ouvrait et refermait péniblement l'une de ses fortes mains, comme si elle le tourmentait. Mirabilis eut l'impression que ses doigts en étaient écorchés. Quand le nouveau venu eut rejoint le tourier, le chat-perché se redressa un peu sur sa gargouille, les yeux et les oreilles grands ouverts. Malgré les clapotis de la rivière et le second pont martelé par les fers des chevaux, il parvint à saisir l'essentiel de ce qu'échangeaient les religieux. « C'est fait !» grommelait le cénobite à la carrure de Luther. « Le chapitre est assemblé. Certains frères ont-ils fait des difficultés ?» Ceux qui jeûnaient, ils n'étaient pas passés au réfectoire. Il a fallu aller les chercher. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Le Dieu m'a aidé à les remettre sur la voie. Le Dieu bénit votre zèle, frère Delban. La cérémonie est-elle prête? On n'attend plus que vous. Le frère Solacien prépare les frères.
Parfait. Je vais le rejoindre et que la volonté du desséché soit faite.
Ainsi soit-il.
Le frère Califort éleva la main gauche vers les pendus pour les bénir, puis prit le chemin du bois funéraire. Comme son compagnon lui emboîtait le pas, il l'arrêta cependant. « Non, intima-t-il. Restez ici, frère Delban. Le seigneur de Vert doit savoir que les dessicatoriens veillent.
« Mais vous risquez d'avoir besoin de moi.
Il y a du monde dans la salle capitulaire. La cérémonie peut encore tourner de travers.
Vous vous êtes donné assez de mal comme cela, frère Delban. Veillez ces pauvres défunts. Le frère Solacien a toute ma confiance pour la célébration de la liturgie.
Le prêtre trapu acquiesça d'un hochement de tête et, décrochant un chapelet de sa ceinture, retourna au bord de la rivière. Au sommet de la tour Malestru, Mirabilis se rencoigna dans sa gouttière. Que les prêtres du desséché célébrassent leurs obscurs services, ce n'était point ses affaires. Pourtant, il flairait plus que jamais une étrangeté, et sa curiosité s'en trouvait piquée. Il se lécha distraitement une patte afin d'y mieux réfléchir. Ce tourier était décidément singulier. Non seulement il faisait des phrases, mais en plus, il donnait des ordres. Il n'était pourtant point le supérieur de cette confrérie. Quant à son comparse, peut-être était-il de ces terrassiers qui creusaient les catacombes. Il semblait quand même extraordinairement vigoureux pour un prêtre troglodyte. La plupart des ministres du culte dépérissaient plus ou moins vite, ensevelis dans leurs pénitences et leurs sanctuaires souterrains. Et puis, n'était-il pas déplacé d'organiser un office dans la salle capitulaire? La chapelle hypogéenne n'était-elle pas plus indiquée pour une cérémonie? Et d'abord, comment une cérémonie pouvait-elle tourner de travers? Le rôdeur suspendit sa toilette, les yeux dans le vague, la langue à moitié tirée. Il lui paraissait de plus en plus clair que ces deux prêtres ne l'étaient point. Une vague d'excitation fit frémir ses moustaches et claquer son joli museau. Enfin du neuf! Quelque chose de louche se tramait dans les cryptes, quelque chose de plus secret et de moins convenu que des querelles féodales. Comme c'était alléchant! Il fallait absolument y mettre le nez. Oubliez la surveillance des chevaliers rebelles. En un instant, Mirabilis n'eut plus qu'une idée en tête, rejoindre le frère Califore et découvrir ce qu'il manigançait. La métamorphose du guetteur fut spectaculaire. En un claquement de doigts, le gros matou patelin se transforma en bolide élastique. D'un bond d'écureuil, il s'éleva de sa gargouille pour rejoindre un créneau. Vif comme l'éclair, il traversa le chemin de ronde, se tortilla par un trou de boulin, trotta sur la charpente de la tour, se laissa tomber sur le treuil de la herse, rebondit au sol, fila entre les jambes des sergents, plongea par l'assommoir ouvert dans le dallage, se reçut sur le bagage d'un cheval de somme, amortit sa chute en traçant 10 profondes griffes sur des sacoches d'arçon. Et à peine sur le pavé, jaillit hors du châtelet, en se faufilant entre les dents de la herse. Rapide comme le vent, il traversa le pont en rasant le parapet. Ce ne fut qu'au débouché de l'ouvrage qu'il se plaqua au sol. Après un instant d'une immobilité totale, il risqua un œil écarquillé et de longues vibrisses derrière l'angle du garde-fou. Si, à l'intérieur des murs, plusieurs écuyers s'ingéniaient à calmer un sommier effrayé pour une raison mystérieuse, au dehors, les deux prêtres n'avaient rien soupçonné de cet impressionnant numéro de voltige. Sur la rive, le frère Delban paraissait plus occupé à se masser les côtes qu'à prier pour le salut des défunts. Quant au frère Califore, il s'engageait seulement sous la ramée. Mirabilis braqua sur son dos les pupilles dilatées du fléau des mulots. Il entreprit de le filer par brusques avancées, alternées de brefs affûts où toute la fièvre de la traque s'évacuait dans l'extrémité de la queue. Au vrai, le prêtre n'était pas difficile à suivre. Il remontait une large allée qui, desservant l'entrée principale de la nécropole, était percée entre les arbres et les monuments afin de faciliter le passage des cortèges funèbres. En revanche, l'accès aux cryptes ne voisinait pas avec l'entrée du château. Au bout d'un moment, Mirabilis commença à trouver la plaisanterie un peu longue et se lassa de ses simagrées. Il se contenta de s'attacher de loin au pas du dessicatorien en trottinant en bord de voie. Sur le fronton des caveaux, les statues des prélats, barons et dames des temps jadis abaissaient des regards sévères. Le greffier n'en avait que faire.
Il s'arrêta d'ailleurs à côté d'une stèle encadrée de rosiers malades pour gratter une puce. Marchant d'une allure égale sans soupçonner la présence de l'indiscret, le frère Califor finit par se présenter devant un mausolée en partie enseveli à flanc de colline. Le bâtiment, entouré de hauts cyprès, était peu visible. Son dôme de bronze verdi semblait avoir poussé hors du coteau comme un énorme fungus. Le portail, pourtant imposant, était lui-même à demi enfoui. Il fallait descendre une volée de marches pour y accéder. Les degrés en étaient larges et peu élevés, afin de faciliter la tâche aux porteurs de bière. Le porche, quant à lui, possédait les ornements funèbres du dieu. Les deux pilastres étaient des transits de cariatides, dont les robes en lambeaux et l'épiderme effiloché effeuillaient les squelettes. Ces deux écorchés portaient au-dessus de l'arc un entablement en forme de cercueil. S'en échappait un pan de linceul, répandu en un fastueux plissé de pierre. Le prêtre poussa avec effort l'un des vantaux du portail. Il était des reins pleins, et se parait, au milieu de rangées de têtes de clous quadrangulaires, de bas-reliefs de sabliers. Mirabilis s'alarma en voyant le tourier repousser à deux mains la porte derrière lui. Mais, par faiblesse ou distraction, il ne la referma pas complètement. Quelques instants plus tard, une ombre féline se faufilait en silence par l'entrebâillement. L'intrus pénétra dans une rotonde obscure. On discernait à peine sur le mur circulaire une fresque représentant des pleureuses en grande toilette de deuil. Au centre de la salle se trouvait une table de pierre nue, destinée à recevoir les cercueils pendant les veillées funèbres. Cette antichambre était la salle des adieux. Les proches du défunt l'y saluaient pour la dernière fois et lui laissaient les offrandes qui l'accompagneraient dans son dernier séjour. Ensuite, emportée par les prêtres libitinaires, la dépouille s'enfonçait dans les catacombes. À l'opposé du portail, un autre porche bas béait sur les profondeurs. Mirabilis y entrevit les épaules et le capuce du prêtre qui sombrait dans les ténèbres. En partie par jeu, en partie par précaution, il le laissa regagner un peu d'avance. Il prit le temps de longer le mur circulaire avant de jeter un coup d'œil dans cette nouvelle embrasure. Un pan incliné s'y immergeait dans un flot de noirceur. Même les pupilles du chat eurent du mal à distinguer la silhouette du tourier, avalée par la suie du caveau. Suivant la règle des dessicatoriens, le frère Califor se déplaçait à l'aveugle dans les catacombes en longeant la paroi de la main. Mirabilis s'engagea sur ses traces après lui avoir laissé une avance raisonnable. Ses yeux de prédateur nocturne lui permirent de deviner un moment les bas-reliefs de plus en plus sépulcraux qui ornaient cette galerie. Mais la nuit souterraine se fit si épaisse que bientôt lui-même n'y vit plus goutte. Cela ne le gênait que superficiellement. Il continuait à se repérer à l'ouïe et au toucher, frôlant la muraille de ses moustaches comme le prêtre le faisait du bout des doigts. À quelques reprises, des espaces s'ouvrirent sur le flanc du rôdeur, suggérant des embranchements inconnus, mais le pas du tourier résonnait avec suffisamment de netteté pour que Mirabilis le suivît sans hésitation. L'atmosphère n'était pas désagréable pour le petit indésirable. Le complexe avait la quiétude, les échos et la fraîcheur d'une cave saine. Notre furtif visiteur n'y humait que des odeurs de vieille pierre et de poussière. Il ne se sentait nullement incommodé par des suintements de moisissure ou de salpêtre. Il lui semblait même saisir parfois un vague esprit aromatique. Au bout d'un moment, Mirabilis recommença à distinguer vaguement le dédale où il s'aventurait. De loin en loin, un ray de lumière filtrait sous une porte. C'était suffisant pour une rétine féline. Le rôdeur découvrit que le prêtre l'entraînait désormais dans une galerie à l'architecture macabre. Sur sa gauche, le mur formait un ossuaire dense où les crânes calés avec des têtes de fémur s'emboîtaient comme les tesselles d'une mosaïque. À sa droite, un alignement d'arcades ouvrait sur les ténèbres. Il s'agissait en fait d'un cloître souterrain qui enclosait non un jardin de pierre, mais un gouffre où dégringolaient de vertigineuses volées de marches. Le frère Califor venait de guider le fureteur jusque dans la clôture de la communauté. Quoique la règle dessicatorienne imposât une vie obscure, certaines activités du culte requéraient des lampes. Mirabilis jeta un œil curieux sous les pas de porte éclairées. Il découvrit ainsi un reposoir pour les défunts, un scriptorium, un réfectoire où régnait un grand désordre. Beaucoup plus intéressant, il tomba sur les cuisines. Mais après un instant d'exaltation, les réserves ne lui offrirent que déception. Pas de quoi saliver. Les prêtres semblaient surtout se nourrir de raves, de bêtes et d'éliantes scrofuleux. Tous ces quartiers, du reste, lui parurent étrangement déserts. Le frère Califor finit par franchir le seuil d'une porte au chambranle peu élevé, mais assez large. Par l'embrasure, une chandelle répandait une langue de lumière tremblotante sur le dallage.
« La miséricorde du Dieu soit sur vous, » salua-t-il.
« Que sa grâce vous accorde la paix de l'âme, » lui répondit-on. Mirabilis se figea en entendant cet échange. L'interlocuteur du tourier possédait une voix juvénile et douce, presque féminine. Mais quelque chose dans la suavité de ce timbre mit l'intrus en alerte. Il se pelotonna au bas du mur.
« Le chapitre est enfin assemblé, »
poursuivait le frère Califor.
« Le frère Delban a déployé des trésors de persuasion, » modula le ton doucereux.
« J'ai vu qu'il n'avait pas ménagé sa peine. Je lui ai accordé un moment pour reprendre ses forces. Faut-il différer la cérémonie jusqu'à son retour ?»«
À votre convenance, monseigneur, mais sa présence n'est plus nécessaire. »
« Et vous, frère Salassien, votre foi est-elle assez ferme pour célébrer le rite ?»«
Je ne suis que son instrument faible et indigne. Je crains plus que jamais que cette mission excède mes pauvres talents. » »«
Cessez donc de vous complaire dans le doute. Vous avez été choisi. Prenez garde que chez les êtres élus, la modestie n'est qu'une grimace de l'orgueil. » »«
Alors aidez-moi, monseigneur. » Sussura-t-on. Édifiez-moi, abaissez-moi.
Le frère Califor poussa un soupir sonore.
Là où nous en sommes, nous pourrions nous passer de ces pénitences,
remontra-t-il.
La foi est plus puissante quand l'âme est soulagée de ses entraves.
Soit, si telle est sa volonté. Où est la discipline ?
La voici.
Comme il n'entendait que deux personnes qui avaient l'air occupées à deviser, Mirabilis gagna le seuil en tapis noir et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Aussi fut-il effaré en découvrant que l'endroit était noir de monde. Le claquement sec d'une fustigation le fit sursauter et se rencoigner hors de vue. D'autres coups retentirent, ponctués de geignements piteux. À chaque choc, Mirabilis ne put s'empêcher de frémir, l'échine frissonnante, comme si la flagellation lui était destinée. Décidément, les prêtres du desséché avaient des mœurs tout à fait malséantes. Mais le plus étrange demeurait le silence de tombe dans lequel cette mortification était dispensée. L'indiscret n'avait pourtant pas eu la berlue. La punition était publique. Il y avait foule dans cette salle. Or, hormis le tapage de la flagellation, aucun bruit ne provenait de l'assemblée. Voilà qui était tout à fait singulier. La curiosité fut la plus forte. Au bout de quelques instants, Mirabilis risquait à nouveau le bout de son nez au ras de la porte. Outre les coups dont le frère Califor cinglait une forme prostrée à ses pieds, le voyeur fut également frappé par l'odeur qui croupissait en ces lieux. Pour la première fois au cours de son escapade cataphile, Mirabilis se sentit incommodé.
cela sentait le renfermer, la sueur refroidie, et même quelques aigres relents de latrine. Flottait dans cette atmosphère épaisse un subtil arôme d'amande, à peine décelable, associé à un remugle fétide qui donna la nausée au vagabond. Il lui rappela fort désobligeamment les boules de poils qu'il lui arrivait de vomir. La crypte qu'il découvrait était assez étendue, couverte par des voûtes surbaissées que soutenait une courte colonnade. Une unique lampe, suspendue au plafond par une chaînette, jetait une lumière fumeuse dans cet espace troglodytique. La banquette de pierre qui courait le long des murs se trouvait occupée par une longue rangée de prêtres encapuchonnés, assis serrés, aussi immobiles que muets. Seul le supérieur siégeait en bout de salle sur une cathèdre individuelle. Devant lui était disposé un lutrin sur lequel trônait un gros codex semé de divers marque-pages. Il était stupéfiant que l'ouïe si fine de Mirabilis ne lui eût pas permis de soupçonner la présence de cette assemblée. Pas une toux, pas un raclement de gorge, pas un frottement de semelle ni un froissement d'étoffe. C'était à croire que tout le chapitre retenait son souffle devant le châtiment réclamé par ce frocard détraqué. La pénitence ne dura guère. Assez rapidement, le frère Califor interrompit la séance et jeta les verges au sol.
« Cela suffit, » décréta-t-il. « Relevez-vous, Solacien. Ce spectacle est pénible pour tous. »
Le pénitent haletait sur le sol, embrassant douloureusement l'une des pierres tombales scellées dans le dallage. Il paraissait si maigre qu'on avait l'impression qu'il n'était qu'une défroque froissée sur le carreau. Puis, avec effort, il se redressa. À la faveur de ce mouvement, Mirabilis entrevit son profil. C'était un tout jeune homme, au trait d'une exquise délicatesse, dont la beauté souffreteuse repoussait encore plus puissamment que la laideur. Blanc comme la craie, il avait le nez pincé, les joues creuses et les yeux caves d'un famélique. Dans le puits de ses cernes, les prunelles brûlaient de passion ou de fièvre. Mais le plus troublant venait de son expression, car elle rayonnait d'un sourire maladif, d'une joie crispée comme clouée à cet épiderme sans chair qui lui conférait le masque d'une béatitude de plâtre.
« Allons, debout !» gourmandait Califor. « Il faut remplir notre apostolat. »
« Puissais-je en être digne ?» sourit misérablement Solacien.
« Qui harangrons-nous en premier ? Le nécrophore, les embaumeurs, tout le chapitre ?»«
Commençons par le nécrophore. Le rite sera plus efficient lorsqu'il se joindra à nous pour le célébrer. »«
Fort bien, alors ouvrons la cérémonie. »
Laissant son acolyte qui s'était relevé dans un équilibre vacillant, le prédicateur vint se planter devant le supérieur du chapitre.
« Révérend Tariquetès, » apostropha-t-il, « nécrophore du bosquet de verre, mon frère dans son obscurité. Je suis venu à vous dans la paix et dans l'amitié. J'ai produit devant vous les lettres apostoliques qui me confèrent la charge d'apocrisière. Et comment les avez-vous reçues ? Vous les avez déchirées en me traitant d'imposteur. C'est en vain que j'ai tenté de vous raisonner. C'est en vain que je vous ai annoncé le redressement de la doctrine et le relèvement du culte. C'est en vain que je vous ai prié d'abjurer vos égarements et ceux des âmes à votre charge. Vous avez fermé les yeux et les oreilles. Vous vous êtes obstiné dans la désobéissance. »
Saisissant le gros ouvrage qui se trouvait devant le nécrophore, Califor le brandit avec colère.
« Vous vous êtes accroché à cette erreur, cette prétendue réforme, cette hérésie yémale. »
Le prêcheur précipita le livre au sol dans un geste empli de dégoût.
« À la révélation des saints mystères, à la restauration des rites éternels, Vous avez préféré cette règle schismatique tout infectée de mondanité et d'énothéisme. Vous avez fermé votre cœur. Vous avez préféré la lettre à l'esprit. Vous avez adoré l'apostasie. Et tout gonflé d'erreur, vous avez osé me menacer, moi. Moi, le messager de sa parole. Vous étiez devenu si sourd à la vérité que vous n'avez même pas entendu son pas approcher.
S'il y avait une chose que pouvait vérifier Mirabilis dans ce discours, c'était la surdité du nécrophore. Capus rabattu, le supérieur du chapitre recevait stoïquement la mercuriale. Il donnait même le sentiment de n'en faire pas grand cas, car sa posture était bizarre, adossée un peu de guingois, le menton reposant sur la poitrine. En fait, indifférent au réquisitoire qui lui était adressé, il avait tout l'air de piquer un petit somme. À y regarder de plus près, d'ailleurs, il n'était pas le seul auditeur qui adopta une posture un brin désinvolte. Celui-ci, qui perdait à moitié sa sandale, laissait son pied reposer sur la tranche plutôt qu'à plat. Tel autre, capuchon tiré sur le nez, avait confortablement calé sa nuque contre le mur et s'était assoupi la bouche ouverte. Deux compères se soutenaient l'un l'autre, épaule contre épaule et tempe contre tempe, tels des frères en ivrognerie. Leur coule portait, du reste, des traces de vomissure. Et pourtant Mirabilis ne trouvait rien de divertissant dans ces poses grotesques. Elles étaient trop raides. La pénombre fétide de la salle glaçait insidieusement les reins du maître chat. Tous ces gens avaient adopté l'immobilité boudeuse de la souris qui, un peu trop taquinée, cessait de jouer le jeu et gisait d'ennuyante manière.
« À présent que vous comparaissez sous son regard, » poursuivait le frère Califor, « vous pouvez mesurer toute l'étendue de votre erreur. C'est à lui et à lui seul de vous juger. Je ne vous ai point condamné. Je me suis contenté de vous convoquer devant son tribunal. Cependant, je reste investi par la mission que m'a confiée son humblesse Kem. » En attendant qu'un nouveau chapitre remette de l'ordre dans ce bosquet, je ne puis laisser les défunts sans gardien. C'est pourquoi, pendant cette période de transition, j'ai décidé de vous restituer, temporairement, votre sacerdoce et vos attributions. Puissiez-vous, désormais, vous en acquitter dans la plus stricte orthodoxie? Peut-être y trouverez-vous un début de rédemption? Si vous remplissez correctement votre office, je prie pour qu'à terme vous reposiez dans sa mansuétude. »
Sur ces mots, le prêtre se tourna à demi vers son acolyte et lui adressa un bref signe de tête. Les deux dessicatoriens étendirent alors les bras, paume tournée vers le sol. Au bout d'un instant, le frère solacien entonna un traîne sur un air très lent. Le chant sonnait poignant, archaïque, et psalmodiait les mystères d'une langue morte. Dans les cryptes, il vibrait d'une harmonie immémoriale, emplissant les ténèbres de solennité. Sa beauté pétrifia d'horreur Mirabilis, qui se ratatina sur le sol. Car le cantique que célébrait le chantre était modulé par un autre pouvoir. Une voix sombre, basse, impossible, qu'exhalait cette poitrine trop étroite et ce cou de poulet. Le chat se hérissa. Il rabattit ses oreilles transpercées d'épouvante. Il retroussa les babines sur un feulement de terreur. Mais ses réflexes ne rimaient à rien. Les conjurations étaient si ineffables qu'il faillit en perdre l'esprit. Autour de lui, au fond de la nécropole, les mémoires se condensaient, les flux telluriques ralentissaient, les cycles calendaires fusionnaient. Le cours des siècles vacilla et menaça de s'effondrer. Pour la plupart des gens, le temps n'est qu'un fil qu'on dévide tout au long de l'existence. Certains se contentent de filer la quenouille des saisons et des jours,
La plupart entissent l'étoffe des lignées, des rencontres et des legs. Tôt ou tard, un coup de ciseau vient interrompre ces déroulements banals. Mirabilis en avait une toute autre vision. Pour lui, le temps n'était qu'une métaphore. Il en était de cette figure comme de la vie. On pouvait lui prêter diverses couleurs et diverses tailles. Beaucoup étaient fort communes ou tout à fait plates. Mais pour peu qu'on eût un grain de fantaisie, on pouvait les filer et les emberlificoter à plaisir, leur donner le tour d'un palindrome, d'un coq à l'âne ou d'un fatras. C'est pourquoi Mirabilis était si libre de son temps. Il s'en jouait, le faisait rebondir en tous sens, se roulait dans ses boucles, se délectait de ses embrouillamini. Bien sûr, à se montrer folâtre, il lui arrivait de s'entortiller dans ses nœuds ou de rompre la ligne. Quelle importance ! N'était-ce pas précisément toute la drôlerie du jeu ? Une cabriole avant ou une volte arrière permettait de reprendre divagations et entrechats. Il allait sans dire que le culte du desséché professait une approche autrement rigoriste. En fait, les dessicatoriens ne s'intéressaient qu'au dénouement. Ils rassemblaient pieusement les derniers brins de l'existence pour en faire un nœud bien propre et bien définitif, qui ne risqua point de provoquer des accrocs dans la trame du réel. Ce faisant, s'il veillait à bien suturer le vécu et les souvenirs, il séparait également le révolu du présent, ce qui n'avait guère de sens aux yeux de Mirabilis, en plus de lui paraître d'un mortel ennui. Mais le cantique entonné par le frère Solacien était un dévoiement complet de cette morne doctrine. La voix puissante qui roulait dans la salle capitulaire ne chantait plus les fins dernières. Elle ne remontait pas non plus le fleuve des mémoires. Elle abolissait tout bonnement le cours du temps. Elle réduisait l'existence au néant. Elle confondait le créé et l'incréé. Elle ne distinguait plus le mort du vivant. Pour un profane, la seule réverbération du cantique sous la voûte eût déjà été impressionnante. Même un rustre sans oreille eût entendu la façon dont le son amoncelait ses nœuds autour du corps inerte du nécrophore. Mais pour les sens raffinés de Mirabilis, l'évocation ouvrait des abîmes. La rétraction du temps condensait le réel en cauchemar surpeuplé. Toutes les ombres de toutes les époques s'amalgamaient. Le dallage, les murs, les plafonds de la crypte se mirent à flotter, superposant les usures, les restaurations, les aménagements des années abolies. L'espace se remplit d'une foule de lémures, prêtres sans nombre des chapitres tenus dans les siècles des siècles, soudain comprimés par le chant sans âge. Dans la galerie où Mirabilis s'était tapis, se mit à défiler la succession séculaire des funérailles, transformée en une procession infinie où s'agglutinaient les célébrants, les fossoyeurs et les bières. Comble de l'horreur, à contre-courant de ce fleuve funéraire, une colonne de spectres remontait les escaliers du gouffre claustral. Ces marcheurs-là étaient des fantômes de fantômes. L'armée jadis levée au fond des catacombes par l'archonte Insanias revenait se mêler au charme acronique. Aplati, assez peu dignement, sur le seuil de la salle capitulaire, Mirabilis n'en menait vraiment pas large. Certes, il frissonnait d'une horreur aussi viscérale que métaphysique, mais il tremblait aussi d'une terreur bien plus personnelle. Car ayant cerné instinctivement la nature du maléfice, il se savait en péril d'anéantissement. Notre Matou, en plus d'être malin, était évidemment tricheur. Il avait usé et abusé de ses talents chronovagues pour esquiver sa propre fin. Voilà belle lurette qu'il avait grillé 7, 9, voire 12 ou 13 vies. Il ne comptait plus ses discrètes ellipses existentielles. Or, l'épouvantable cantique du frère Solacien, en fusionnant passé, présent et avenir,
était en passe de ramener le vagabond au fond d'un certain nombre de cul-de-sac qu'il avait soigneusement contournés. Affolé, Mirabilis comprit que si le chant allait à son terme, il serait rattrapé par des morsures féroces, une demi-douzaine d'accidents stupides, un ou deux maléfices vengeurs, et même un coryza tout à fait trivial. Cette fois, impossible d'y couper. Sauter un jour ou 10 ne rimerait à rien, puisque le monstrueux rituel les amalgamait tous. La détresse du rôdeur devint si aiguë que j'incline à croire qu'il faillit appeler mon aide ou celle de ma rivale. Mirabilis est un être aussi inconstant avec les pouvoirs qu'il sert qu'avec les conquêtes qu'il collectionne. Il n'en fit rien, probablement parce qu'il avait déjà perdu tous ses moyens. Ce fut heureux. Pour ma part, je n'aurais pas été en mesure de lui porter secours dans ces circonstances. Quant à la dame des futaies bleues, je ne doute pas qu'elle fût intervenue, moins pour sauver le petit écervelé que pour briser le rituel des nécromants. Mais l'exécration qu'elle vouait aux dessicatoriens eût probablement produit un remède pire que le mal. Il était trop tard, si toutefois cela avait encore un sens. Plus que quelques versets, et le frère Solacien allait conclure la cérémonie. Submergé par une panique indicible, Mirabilis voulut prendre la fuite, s'élança dans les hantises des siècles conglomérés, et, ses facultés perturbées, fut seulement capable de poursuivre follement sa queue. Terrassé par l'effroi, il roula au sol. Dans un réflexe convulsif, il se couvrit la tête des pattes. Impulsivement, il en frotta ses deux oreilles. Se produisit alors un phénomène des plus déconcertants. Le cœur de la voix démultipliée du frère Solacien perdit son unisson. Le cantique se transforma brièvement en chant canon, puis en une polyphonie de plus en plus discordante. Le chantre perdit le ton, bredouilla, s'interrompit, encore repris pendant quelques instants par des échos épars. Un silence de plomb finit par se refermer sur les ténèbres de la nécropole. Dans sa cathèdre, le nécrophore Tariquetès abaissa une lèvre molle d'où s'écoula un filet de salive, mais ne bougea pas davantage.
« Qu'est-ce que cela ?» donna le frère Califort. « Qu'avez-vous fait ?»«
Je... » balbutia le chantre qui semblait pris de vertige.
« Le rite était presque achevé, pourquoi arrêtez-vous ?»«
Quelque chose a rompu la mesure. » De colère, le frère Califort ramassa la discipline et en menaça son acolyte.
« Quelque chose !» s'exaspéra-t-il. Vous n'y avez pas mis assez de foi. Eh bien, soit. S'il faut vous fouetter jusqu'à l'os pour que vous remplissiez votre office, je vais m'y employer.
Les lèvres toujours étirées par son sourire insensé, le frère Solacien parut se soumettre au châtiment. Mais cette attitude servile fut contredite par son propos. « Je mérite cette pénitence, » convint-il. « Et pourtant... » Le Dieu m'est témoin. Je ne suis coupable que d'avoir été coupé, non d'avoir fauté. Quelque chose est venu rompre le saint mystère. Un sacrilège. Une présence impie.
Que me chantez-vous là?
Ne la sentez-vous point? C'est toujours là, dans ces murs. Une étrangeté. Non. Une aberration. Un blasphème. De la magie vive.
Comment ? De la magie vive, ici ?
Oui, un ferment de magie vive, au cœur du sanctuaire, tout près de nous. Tenez. Tenez.
Et avec une lenteur implacable, comme s'il avait remonté une mauvaise odeur, le frère Solacien se retourna, balaya des yeux l'embrasure de la porte, les abaissa vers le seuil et pointa un index osseux sur un Mirabilis plus mort que vif qui se demandait s'il était toujours de ce monde.
Là,
Voyez, voici le profanateur.
Le regard bigle de Califor se posa à son tour sur le petit intrus.
« Quoi ? Un chat ? » s'étonna-t-il.
« Ne vous y trompez pas, »
siffla Solacien.
« Sa robe noire est un artifice. Elle n'exprime ni humilité ni dévotion. Cette créature est une abomination qui transgresse ses arrêts. Je la distingue parfaitement à présent. C'est un trompe-la-mort qui use de ses tours au mépris de la loi divine. »
Pendant un instant interminable, le matou répandu sur le sol rendit un regard hagard aux deux prêtres. Sa cervelle ébranlée avait du mal à retrouver la lucidité dont il se flattait d'ordinaire. À vrai dire, il ne savait pas s'il devait s'étonner davantage d'être toujours en vie ou d'avoir été confondu par deux prestolets dont, comble de la déchéance, un loucheur. Le strabisme du frère Califor était d'ailleurs très perturbant. Mirabilis n'aurait pu jurer que l'horrible Miro l'avait vraiment repéré. En revanche, il ne pouvait se bercer d'illusions au sujet du frère Solacien. Le sourire du jeune nécroman était plus que jamais crispé, mais respirait à présent une jubilation vengeresse. Lorsque ses lèvres fines esquissèrent une nouvelle syllabe, Mirabilis n'attendit pas son reste. Dans un grand crissement de griffes, il décampa ventre à terre, porté par une panique éperdue. Il avait déjà franchi une distance prodigieuse avant que Solacien n'eût terminé d'articuler un verset. Ce fut à peine si le fuyard entrevit, dans la lueur rasante dispensée par quelques pas de porte, le fourmillement qui venait de couvrir les sols et les murs. Il n'était pas le seul à vider les lieux. Toute une faune minuscule d'araignées blanches, de myriapodes et de coléoptères pâles s'était lancée dans un exode précipité loin de la salle du chapitre. En quelques bonds, Mirabilis avait replongé dans les galeries les plus noires. Il déguerpissait à l'instinct, à l'oreille, escorté par les trottinements de rongeurs aussi affolés que lui. Juste sous les voûtes obscures, une cacophonie de cris suraigus refluait également dans un voltigement d'ailes membraneuses. Il suivit cette envolée à l'aveuglette, sans réfléchir. Quelques instants plus tard, la porte entr'ouverte du mausolée recrachait un gros chat en déroute au milieu d'une débandade de rats et d'une nuée de chauves-souris.